À l'écoute de l'Italie,
une émission de l'INIS le quatrième jeudi de chaque mois de 18h à 19h.
Retransmission le dimanche suivant de 10h à 11h et le lundi suivant de 21h à 22h.
Actualité et tradition.
Chansons.
Gastronomie.
Bonjour.
Bonsoir plutôt.
Bonsoir.
Même. Bonsoir Alain, bonsoir Laurent.
La nuit arrive tellement tôt qu'on ne sait plus si on doit dire bonjour, bonsoir.
J'ai perdu dans le temps, quoi.
Voilà, tout à fait.
Alors,
comme d'habitude, on va peut-être commencer par l'actualité italienne, l'actualité politique. Alors certains nous disent, on parle beaucoup d'actualité politique et beaucoup de SB. Mais bon, on est bien obligé aussi d'en parler, puisqu'il fait partie, j'allais dire malheureusement, du paysage italien. Et puis, il donne une image de l'Italie qui n'est peut-être pas celle qu'on aimerait nous véhiculer.
Oui, c'est le problème. Voilà. Alors, nous enregistrons aujourd'hui, mercredi 3 novembre. Qu'est-ce qui se passera d'ici le jour de la diffusion? On n'en sait rien, parce que les choses évoluent très vite. Mais actuellement, on parle d'abord du scandale de la vie sexuelle de Berlusconi, parce qu'il a été à nouveau convaincu d'avoir organisé des bunga-bunga, des surprises parties érotiques.
Inspirées par Kadhafi.
Oui. Avec,
dit-il.
Avec une certaine Ruby qui est mineure. Alors, je dirais que les transgressions sexuelles de M. Berlusconi ne nous intéressent pas et que probablement on y insiste tant parce que, pour ne pas parler d'autre chose, pour ne pas parler d'une situation italienne qui est absolument catastrophique, quoi. En Sardaigne, les bergers sont obligés de bloquer les aéroports et les routes pour attirer l'attention sur leur situation, qui est dévastée. À Terzigno, les citoyens se battent légitimement pour ne pas devenir la poubelle de la compagnie et ils se font matraquer. Et ainsi de suite. L'université est dans une situation catastrophique. Elle est prise à coups de pied dans la figure. Par manque de fonds, elle se détruit. Et en même temps, on travaille, parce qu'il faut bien quand même se garder des soutiens, à augmenter les crédits de l'école catholique. Ce qui fait que, face aux frasques sexuelles qui choquent le Vatican, l'Église catholique est quand même réagie de façon...
Modérée.
Modérée.
D'ailleurs, il y a un appel de Bersani...
Prudente.
Donc, de gauche, non ?
Oui.
Qui publiquement dit à l'Église, maintenant, quand même, commencez quand même à réagir, quoi, parce que... Et vous aussi, vous devez prendre la parole sur toutes... Alors, non pas ces soirées ou quoi, bon, qui, effectivement, sont plus qu'ennuyeuses, parce que c'est pas des soirées personnelles, privées, ça tourne à la prostitution, ça tourne
oui,
à organiser, à la drogue.
La drogue, il y a de la diffusion de drogue.
Oui, mais elle est quand même
donc,
le chef du gouvernement.
Que le chef du gouvernement soit compromis.
Alors après, la jeune fille en question, bon, on revient un peu sur certaines déclarations, c'est-à-dire qu'elle les fait depuis qu'elle est majeure, c'est-à-dire depuis 3 jours.
Oui.
bon, il avait, pour situer rapidement l'histoire, il avait ordonné... Elle avait été arrêtée à Milan pour un vol de seconde zone, on va dire.
Et oui, 3 000 euros.
Les policiers, comme toute personne qui était surpris en flagrant délit, souhaitaient l'arrêter.
Il
l'avait d'ailleurs arrêté. Et s'il lui avait téléphoné en faisant croire que c'était la nièce de Moubarak et qu'il fallait tout de suite la relâcher, etc. etc.
La confier à sa conseillère. Sa conseillère, qui est conseillère régionale du parti de Berlusconi.
Alors après, bon, visiblement, elle a parlé de ses soirées, elle a dit qu'elle y était invitée, mais que lui ne savait pas qu'elle était mineure, enfin, peu importe, il y a des recoupements, des contradictions, mais je crois qu'un des journalistes disait tout à fait quelque chose de réel, c'est qu'après que Qu'il y ait ou pas, et c'est probablement pas des campagnes de presse contre lui, c'est une réalité, mais même si c'était le cas, il amène tellement à ce genre de comportement que c'est là où ça devient grave, parce qu'à la limite, il y a d'autres choses à traiter que ces frasques. Quoi.
Oui, on ne parle que de ça, mais alors ce qui est grave surtout, c'est que le président du Conseil puisse intervenir auprès d'un préfet pour faire libérer quelqu'un qui a été pris en flagrant délit et qui, pour lesquels le juge des mineurs avait ordonné, confirmé par le procureur, avait ordonné la mise en communauté, dans une communauté. Le problème, c'est que dans la nuit, il n'y a pas eu de communauté immédiatement disponible et que la présidence du Conseil est intervenue. Le procureur s'est déjugé. Il a, quelques instants après avoir dit « on la met en communauté », il a dit « on la confie à la conseillère de M. Berlusconi ». Et c'est ça qui est, c'est ça qui est déroutant et qui est insupportable, quoi.
Mais enfin, dans son comportement, et notamment après, il a voulu, comme il fait d'habitude, ironiser autour de tout ça, en relançant lui-même, d'ailleurs, le fait, au salon de la moto à Milan. Bon, il a eu cette phrase dont toutes même les chaînes françaises se font l'écho, disant qu'il vaut mieux être...
aimer les belles femmes.
Qu'être gay.
Oui.
C'est tellement stupide que c'est... Mais je crois que là... Par contre, même dans son parti, il commence à en avoir marre. Quoi. Je crois que, à part les inconditionnels, vraiment inconditionnels,
oui, il est très critiqué.
Bon, déjà le parti de, enfin le nouveau parti qui est en train de monter, Fini, là, son ex-coéquipier, on peut dire maintenant du gouvernement, même s'il est toujours au gouvernement, enfin son mouvement est toujours au gouvernement. Cette fois, je crois qu'il pense qu'il a dépassé les bornes. Il y a beaucoup de titres dans les journaux.
Bossi le pense aussi. Il le dit aussi, par intérêt politique. Mais...
Beaucoup pensent qu'il est en fin de règne, quand même.
Oui.
Parce qu'il a l'air un petit peu isolé, quand même. Là,
parce qu'il donne... Les patrons italiens, la responsable de la MEDEF, puisque c'est une femme, aussi, l'équivalent du MEDEF, la Confindustria, c'est une femme en Italie, a eu des paroles très dures.
Très dures, oui.
Très dures, Madame Benegali a eu des paroles très dures contre Berlusconi en disant il faut, chaque fois qu'on fait une affaire à l'étranger, il faut qu'on justifie les comportements du président de la République, du président du Conseil, et ça devient insupportable, injustifiable. C'est pas possible de continuer comme ça.
Et puis on ne voit l'Italie que par ce biais-là, quoi, ce qui est quand même un peu dommage, réducteur d'une part, et dommage. Quoi.
Oui, et puis ce qui est amusant, c'est que on critique d'un côté, on a les frasques sexuelles de M. Berlusconi qui sont incontestables, mais je dirais que c'est presque son problème personnel, c'est pas l'essentiel de la vie politique italienne, mais que parallèlement, on a des comportements. Du type de celui du maire de Castellammare di Stabia, qui est apparu aujourd'hui.
Sur la mini-jupe.
Oui, le maire de Castellammare di Stabia, qui est un ancien magistrat et dont l'adjoint est un ancien général, vient de prendre des décrets municipaux. Castellammare di Stabia, donc, est une ville côtière au sud de Naples, interdisant les mini-jupes trop courtes, les décolletés trop généreux, les jeans taille basse. Il interdit de prendre des bains de soleil dans les parcs de la ville et de se balader torse nu loin des plages. Il interdit de jurer ou de troubler les autres avec un langage cru. Et on peut prendre pour tout ça des amendes de 25 à 500 euros.
Alors si c'est applicable en hiver, il n'y a pas trop de soucis. Mais je pense que c'est pas ce qu'il veut faire.
Mais ce qui est amusant, c'est le paradoxe entre l'impudeur totale de Berlusconi, d'un côté, et ses réactions d'un extrême conservatisme, absolument.
On se croirait aux élections américaines avec le Tea Party.
Oui. Alors du coup, les féministes de Castellammare sont allées faire des manifestations devant la mairie en mini-jupe,
j'imagine.
En mini-jupe très courte, etc. Et la vie italienne, c'est de ça qu'on parle, quoi. Or, il y a bien d'autres problèmes et on les oublie là derrière. Et c'est ça qui est très, très dommage.
Voilà. Bon,
on écoute une chanson.
Oui, alors j'allais bien n'y voyer aucun rapport. On écoute. Aujourd'hui, on va peut-être écouter des dames et demoiselles, puisque on passe beaucoup de chanteurs, on passe beaucoup de chanteuses aussi, mais on va consacrer une journée aux femmes aujourd'hui en chanson. Et donc on va écouter Carmen Consoli, qu'on a déjà passé il y a quelques mois. Alors sa première chanson, enfin la première chanson qu'on va écouter, Stato di Necessità. Le début de la chanson dit « Je suis en train de mettre au point des tactiques de séduction inconnues, très inconnues même. » Encore une fois, pas de rapport avec ce qu'on a dit avant. « Je suis en proie à la plus ingénue des perversions. » Et c'est un état de nécessité, quasi d'urgence en fait. Euphorie hormonale congénitale, c'est un cas d'extrême urgence. Saute-moi dessus, docteur courage, dévore-moi, étudie-moi à fond. Tu ne dois avoir aucun embarras, saute-moi dessus. Je n'attends rien d'autre. Carmen Consoli.
Corre.
Voilà, c'était une chanson, donc Stato di necessità, de Carmen Consoli. Alors, il faut rappeler que Carmen Consoli, maintenant, elle est née en... C'est une Sicilienne, elle est née à Catania en 1974. Et elle en est, depuis 1996, à date de son premier album, elle en est à son 12e album avec Elettra. Et elle est, cette année, elle sera prix Tenco. Dans la soirée du 11, 12, 13 novembre, auquel elle se produira donc au festival des cantautori, des auteurs, compositeurs, interprètes de Sanremo, du club Tenco de Sanremo. Voilà. Alors, à ce propos, on parlait de Berlusconi et le Monde du 7 septembre a publié un article intéressant du correspondant du Monde en Italie, Philippe Ridet, où il dit « Comment vivre sans Berlusconi ?» Et il rappelle les propos d'un écrivain contemporain, Vito Mancuso, qui se demande, qui est publié par Mondadori, et qui dit « Je vais quitter Mondadori ». Parce que, après les propos de Berlusconi sur Saviano, Saviano, à propos de l'auteur donc, de Gomorra sur la mafia, sur la camorra napolitaine, Berlusconi avait dit « il ne faut pas parler de tout ça parce que ça donne une mauvaise image de l'Italie. Il ne faut pas en parler, il ne faut pas non plus bien sûr régler le problème. » Mais Vito Mancuso dit « si maintenant Berlusconi intervient comme il semble vouloir le faire dans les maisons d'édition qu'il contrôle,
oui,
c'est-à-dire les deux plus grandes maisons d'édition, Mondadori et Einaudi, il faut appeler les auteurs à quitter ces maisons d'édition. Et puis il ajoute, je sais bien que tous ne peuvent se permettre cette bataille, exprimer publiquement son désaccord est un privilège plutôt rare. La vieille maxime primum vivere deinde philosophare, vivre d'abord et philosopher ensuite, vaut pour tous et je n'appelle personne à jouer les héros. Mais Philippe Ridet rapporte à cette occasion que Berlusconi contrôle actuellement les plus grandes maisons d'édition, qu'il contrôle par Mediaset, par Fininvest, qu'il contrôle pratiquement
les chaînes de télé.
Toutes les chaînes de télévision, à part les petites chaînes locales, qu'il contrôle la Pirelli, par exemple. Il dit, bon, il ne faut plus acheter de pneus Pirelli, si on veut lutter contre lui, qu'il contrôle les deux grandes banques italiennes qui sont là pour lui complaire, etc., etc. C'est-à-dire que dans l'ensemble, les équipes de football aussi, il faudrait rappeler l'équipe de Milan, la Milan AC, dont il est propriétaire et président. Et donc, dit Philippe Ridet, actuellement, il contrôle une part importante de l'activité économique, sportive, etc. Et c'est ce qui lui permet de rester en place, moyennant quoi. Le drame, c'est que depuis qu'il est en place, il ne règle aucun des problèmes. Le plus voyant actuellement, c'est celui de la gestion des ordures à Naples, quoi.
Qui a recommencé.
Oui.
Enfin, le problème des ordures a redémarré, on va dire.
Oui, il a commencé son gouvernement quand il a été élu en faisant une grande réunion du gouvernement. À la première réunion du gouvernement, il l'a faite à Naples en disant « on va régler tout de suite, dans les semaines qui viennent, on va régler ce problème ». Actuellement, c'est toujours dans le même état. Et ça provoque des situations sociales.
Alors, le problème et le paradoxe, c'est un moment où je pense quand même que l'Italie en a un peu marre. Alors, quand on dit les Italiens, l'Italie, évidemment, on généralise.
Ouais.
en ont un peu marre. Malheureusement, on a aussi l'impression à contre-courant que il fait des adeptes en Europe, quoi. Alors non pas peut-être pour les soirées, les choses comme ça, mais pour le comportement, le style de gouvernement. Et ça, c'est pas très quand même rassurant, quoi, parce que. Et s'il était isolé, à la limite,
c'est pas
à
un
l'intérieur
cas.
De l'homme, mais ce n'est pas un cas unique.
Ça devient... Il ne gouverne ni mieux ni plus mal que...
Voilà, il y ajoute sa personnalité très particulière.
Oui.
Mais c'est là où c'est un petit peu ennuyeux, quand même, hein, tout ça.
Parce oui, que... et puis ce qui est ennuyeux, c'est de voir une nation qui est dirigée par un homme qui n'est pas un homme d'État,
Mais
un homme d'affaires.
Mais...
Et la seule chose qui l'intéresse, ce sont ses affaires, qui prospèrent d'ailleurs. Mais ce sont les seuls en Italie.
Tout à fait. Et dans beaucoup d'États, c'est ce qui se passe. Hein. C'est-à-dire on a des hommes d'affaires, des avocats d'affaires, des industriels, des sidas.
Des entreprises de notation.
Qui peuvent être des gens tout à fait honorables, au demeurant certains.
Oui,
mais
qui dirige
un pays comme une entreprise qui n'est pas tout à fait quand même la même chose. Hein.
Quand on voit que même la Fiat, même le secrétaire administratif de la Fiat, M. Marchionne, vient de dire si on excluait les entreprises italiennes de la Fiat ferait de gros bénéfices.
Oui, c'est-à-dire que la plupart est fabriquée à l'étranger, quoi. La plupart des voitures sont fabriquées hors d'Italie.
Oui, et que le marché italien ne marche pas du tout, quoi. Et que... Alors ça a provoqué évidemment des remous partout, y compris dans les syndicats. Mais ça veut dire aussi que les patrons ne sont pas satisfaits du tout de la gestion économique de M. Berlusconi.
Ah oui, non, mais là, c'est évident. Enfin bon, c'est de... Tu disais que comment faire sans lui, il y a aussi une question qui se pose de plus en plus. Comment on va faire après lui? C'est une des questions qui se pose, dont beaucoup d'intellectuels se posent la question.
C'est ce qui fait hésiter les Italiens actuellement. Oui. Et puis, en même temps, plus il dure et plus il décompose les valeurs de la République italienne. Quand il dit « je préfère les belles femmes », je préfère être quelqu'un qui aime les belles femmes plutôt que d'être homosexuel. En réalité, il décompose la moralité italienne. Parce que pour beaucoup d'Italiens, c'est vrai qu'être homosexuel, c'est plutôt...
Oui, beaucoup d'Italiens, beaucoup de gens en général.
Bien sûr, mais de Français aussi.
Oui, oui.
C'est condamnable d'être homosexuel. On supporte, mais c'est pas bien. Il encourage...
C'est ce qu'on appelle le populisme à l'état pur.
Quoi. Voilà, qui encourage chez les gens les réactions les plus retardataires, les plus négatives, et qui augmente les conflits sociaux sans solution possible dans un pays, parce que ce n'est pas les organisations féministes et homosexuelles qui vont régler les problèmes économiques de l'Italie à eux tout seuls, non plus. Et donc, c'est une situation très, très grave actuellement dans laquelle se débat l'Italie, se débattent les Italiens, et les manifestations du peuple violet, c'est-à-dire de ceux qui ont adopté cette couleur qui n'est adoptée par aucun parti italien, ni de droite ni de gauche, sont intéressantes parce qu'elles révèlent une volonté de prendre les choses en charge, ne règlent rien.
Il y a eu des manifestations dont on n'a pas parlé du tout en France, mais alors vraiment pas du tout.
Oui.
On a parlé des jeunes Français autour de la retraite, se demandant s'ils devaient être ou pas dans la rue pour la retraite, alors qu'on sait très bien que c'est un problème... plus ample, et c'est pour ça qu'ils descendent dans la rue. Mais les jeunes Italiens étaient descendus bien une quinzaine de jours avant dans
la
rue.
Bien sûr.
Et en disant, nous, on a un avenir, on voudrait savoir qu'est-ce qu'il est. Et puis c'est ce qu'on nous montre actuellement n'est pas effectivement ce que l'on souhaite. Il n'y a pas de projet, il n'y a rien.
Il n'y a pas de projet. Et puis l'université est vraiment dans une situation catastrophique.
Alors il y a un problème qui existe en Italie, mais qui existe malheureusement ailleurs aussi, en France en particulier, c'est la fuite des cerveaux aussi.
Mais ils s'en vont.
Ils s'en vont.
Ils s'en vont. Ils vont faire de la recherche ailleurs, aux États-Unis, en Angleterre. Et ce n'est pas très favorable au développement non plus de la recherche scientifique et de la vie économique italienne. Allez, on va quand même écouter une seconde chanson.
Toujours de Carmen Consoli, novembre 99. je te semblerais nostalgique, suffisamment nostalgique, je te semblerais une femme aux larmes faciles, avec peu de patience. Il faut comprendre que je suis un morceau de marbre. L'ennui détruit la volonté de changer. Je devrais tout recommencer depuis le début. Je devrais trouver la force et l'audace pour le faire. Je sais déjà que pendant un moment, je serai rempli d'hiver. Pendant un moment, ce sera l'hiver plein.
Nostalgica, meteoropatica, quanto basta. Ti sembrerò una donna da niente, facili lacrime, poca pazienza. Comprendere che sono un pezzo di marmo. Noia devasta la volontà di cambiare. Dovrei rivalutare tutto dal principio, trovare la forza e l'audacia per farlo. So già che per un momento sarà pieno inverno, per un momento sarà pieno inverno. Ti sembrerò un'emerita idiota, facili entusiasmi, improvvisi avvilimenti. Domandami ancora una volta se piango, se ogni equilibrio si è rotto.
Voilà une deuxième chanson de Carmen Consoli, qui est sans doute une des grandes de la chanson actuelle, la chanson italienne actuelle. Alors, j'ai écouté l'interview de Berlusconi. Il disait à propos de ses frasques, du bruit qu'il y avait autour de ses frasques sexuelles, il disait, mais tout ça, ça n'existe pas. Ça n'existe pas.
C'est un montage de journaliste.
C'est un montage de journaliste, absolument. Il dit, una tempesta di carta, comme on dit, un tigre de papier.
Voilà,
il a dit, c'est une tempête de papier. Alors, il conclut, ne lisez pas la presse.
Bah, il a raison.
Voilà. mais c'est terrible. un chef de gouvernement qui peut dire à son peuple, ne vous informez pas.
Ne lisez pas la presse, ou pas n'importe laquelle, enfin, pas celle...
Oui, il y a les journaux.
Voilà, les journaux. Et encore, là,
et encore, même là.
J'ai relu les journaux après tout ça, là. Et on les sent quand même...
Ils sont toujours
très berlusconiens, mais quand même, on sent un petit frémissement.
Ils sont embarrassés, voilà. C'est sûr. Alors, ne pas lire la presse, c'est quand même... inviter les gens à ne pas lire la presse, c'est terrible, quoi. La presse est une des grandes valeurs de la République italienne. Et puis déjà avant, depuis l'unité italienne, la presse quotidienne, la montée de la presse quotidienne a été extraordinaire, quoi.
Voilà, alors c'est pour parler des journaux, on pourrait peut-être parler des journaux italiens justement.
De
ceux à fort tirage et ceux peut-être moins connus en France.
Oui, parce qu'on peut les consulter gratuitement.
Sur Internet.
Sur Google, sur Internet. Il y en a au moins quatre qui paraissent intéressants. C'est La Stampa de Turin.
Qui est très vieux.
C'est la plus ancienne.
1867, je crois.
1867.
C'est ça, ouais.
C'était la Gazzetta Piemontese.
Au départ.
Qui tirait à 20 000 exemplaires, à peu près. Et puis en 1895, Alberto Frassati rachète la Gazzetta Piemontese et change le titre pour celui de La Stampa. Et en 1900, donc un petit peu 5 ans après, le journal tire à 50 000 exemplaires. Il a un supplément sportif, il a un supplément, un magazine La Donna, la femme, qui débat des problèmes féminins. Et en 1914-1915, il se prononce pour la neutralité, contre la guerre.
Absolument.
Pour la neutralité de l'Italie, ce qui était bien. Et puis il se prononce après la guerre, en 1924, contre l'assassinat de Matteotti, du député socialiste Matteotti, par les fascistes. Et du coup, Frassati est invité à démissionner. Et à revendre le journal. Il revend le titre à la famille Agnelli en 1934. C'est réglé en 1934. Et puis, bon, Agnelli en fait autre chose que ce que le fascisme voulait, parce que la Stampa est un grand organe de presse, sauf sur ce qui touche de trop près la famille Agnelli, quelquefois. Mais en 1975, la Stampa est déjà un grand journal. Elle sort un supplément, Tutto Libri. En 81, elle sort un autre supplément, Tutto Sport.
Qui est le deuxième journal sportif en italien, on va dire.
Absolument.
Après la Gazzetta dello Sport.
Voilà.
Et c'est un journal qui tire en un peu plus de 300 000 exemplaires quotidiennement.
Voilà. Et puis un autre journal italien, c'est Il Corriere della Sera, qui est encore plus ancien que la Stampa proprement dite, puisqu'il est de 1876.
Non, un peu plus récent, mais dans la même décennie. Oui,
mais je veux dire...
Sous le titre
de la Stampa.
Corriere della Sera, parce qu'il est vendu à partir de 9h du soir.
Voilà, il est vendu le soir, il sort à Milan. Il commence en 1876, par 3000 exemplaires lancés par un ex-garibaldien, Torelli Violier. Et en 1904, il a déjà dépassé tous les autres journaux.
Dans le Il Secolo.
Oui, absolument. Et les plus grands auteurs écrivent comme Montale et Pirandello. Pasolini plus tard, absolument. Et le directeur est obligé de démissionner. Les fascistes l'obligent à démissionner. Et le journal se fascise, ce qui fait qu'il est suspendu pendant un mois, 1900, au lendemain de la guerre. Et en 68, il est repris par Spadolini, qui était un des grands leaders du mouvement radical italien, puis Piero Tone, et puis Paolo Mieli en 2004. Et aujourd'hui, il tire à 680 208 exemplaires.
C'est le plus fort tirage.
C'est le plus fort tirage. Et puis, après la guerre, il y a la Repubblica, qui sort en 1976.
Pour Corriere della Sera, il y avait eu des mouvements en 2006.
Oui.
Parce qu'ils avaient pris parti, dans l'opposition Prodi-Berlusconi, ils avaient pris parti pour Prodi.
Pour Prodi, absolument. Absolument. Ouais. On ne peut pas dire que la Stampa et le Corriere soient des organes de centre-droit.
Non.
C'est des organes d'information.
Oui.
Ils sont moins de centre-droit que la Repubblica n'est de
centre-gauche.
De centre-gauche, plutôt. Mais les trois, bon, on pourrait donner comme référence en France un journal comme Le Monde, quoi.
Oui, c'est ça.
Oui, mais surtout le Monde. La Repubblica est de 76. Elle est.
La Repubblica a des accords avec Le Monde, hein, de toute façon.
Bien sûr. Et puis elle fait partie du groupe L'Espresso.
Alors justement, tu parlais de la Mondadori. À une époque, Berlusconi et De Benedetti s'étaient partagés, on peut dire, les grosses maisons d'édition italiennes. Hein, puisque Benedetti, qui est un financier. Important, enfin, par sa richesse aussi, qui est un opposant de vieille date à Berlusconi. Et c'est donc dans ces années-là, ou les années 80, où Berlusconi a pris la Mondadori et De Benedetti l'Espresso. Enfin,
L'Espresso et la
Repubblica.
Et aujourd'hui, le directeur est Ezio Mauro, depuis 1996.
Là aussi, il y a eu une belle signature à La République.
Ah, absolument.
Un journal.
Oui, des gens comme Umberto Eco, des gens comme Giorgio Bocca, etc. Des grands intellectuels écrivent plutôt dans La République aujourd'hui.
Alors, il y a un journal qui n'existe plus. On parlait de Corriere. Il y avait la Domenica del Corriere.
Oui, absolument.
Qui était magnifique comme journal, enfin, dont son contenu était intéressant, mais il était magnifique en tant que beauté d'ouvrage, parce qu'il était toujours illustré par des illustrateurs de talent, en fait. La couverture.
Ou des photographes.
À tel point que maintenant, c'est un journal qui avait été créé en 1899, et qui s'est arrêté en 1989. Mais à tel point que maintenant, il y a des collections de la Domenica del Corriere qui sont vendues. Il y a des clubs Domenica del Corriere.
Oui.
Et c'est étonnant qu'un journal ait gardé cette emprise, en fait.
La Domenica del Corriere, ça a été un des journaux les plus populaires d'Italie. La Repubblica a lancé la Domenica di Repubblica en 2004.
Et la Repubblica a un supplément le vendredi sur la musique, la chanson en général, et la musique. Je t'ai coupé, pardon.
Non, vas-y.
Non, je dis, il y a d'autres journaux aussi.
Il y a beaucoup d'autres journaux, mais il y en a un en particulier, il faut signaler, parce qu'il n'est pas encore très connu, c'est Il Fatto Quotidiano.
Celui-là, il est...
Il Fatto Quotidiano, qui a été créé en 2009, le 20 septembre 2009, donc ça fait à peu près un an, et qui tire à 150 000 exemplaires.
Ce qui est beaucoup.
Ce qui est énorme.
Ce qui est beaucoup, parce que pour deux ans d'existence, pratiquement, même pas.
Et il s'appelle Il Fatto, en hommage à l'émission d'Enzo Biaggi, Il Fatto. Le fait qui avait été censuré par Berlusconi.
Absolument.
Alors, Il Fatto Quotidiano, c'est certainement le quotidien. Son objectif n'est pas de combattre pour un parti ou pour un autre, mais son objectif, c'est la défense de la Constitution italienne. Et effectivement, il se trouve anti-berlusconien actuellement, de façon très, très radicale. Et c'est certainement le journal qui donne l'information critique la plus
objective. Documentée, la plus analyste.
Il donne des documents.
Très intéressant. C'est pas seulement des nouvelles et partisanes.
C'est pas les scoops.
C'est très bien fait.
C'est très, très bien fait.
Très, très bien fait.
Et il y a beaucoup d'informations qu'on ne trouve que sur Il Fatto Quotidiano. On peut taper Il Fatto Quotidiano.
Ah oui, on l'a sans problème.
Et on l'a sans problème, gratuitement, sur Internet.
Sur Internet,
Et c'est vrai que la presse, Berlusconi dit ne plus lire la presse, mais la presse est une conquête importante de l'histoire de l'Italie unifiée. C'est vrai que les journaux les plus anciens, comme il Corriere et la Stampa, ont eu dans l'histoire italienne une très grande importance, quoi, parce que diffusés, très largement diffusés, à une période où une partie de la population était certes analphabète, mais où toutes les classes cultivées, un peu cultivées, lisaient la presse. Et c'est très, très important. C'est ça qui a formé une opinion publique éclairée en Italie. Alors, c'est vrai que maintenant, il y a d'autres problèmes. Il y a la diffusion d'Internet, les pseudo-communications privées qui se développent par le redoutable Facebook, par exemple, aussi en Italie. Mais la presse reste quelque chose d'essentiel.
Oui, et puis je pense que les Italiens aiment encore bien avoir le journal entre les mains, aussi bien qu'ils aillent aussi sur Internet, évidemment.
Bien sûr.
Alors, je pense qu'on pourrait citer d'autres journaux aussi. Il y a l'Unita, évidemment.
Alors, il y a les journaux de parti, après.
Il Giornale, on a dit. Bon, l'Unita de Gramsci, Il Giornale, évidemment, pro-berlusconien, on l'a dit tout à l'heure. Il Tempo. Il y a le Journal du Vatican aussi. Enfin, même si on
il y a l'Osservatore Romano,
qui est publié en plusieurs langues, lui, qu'on peut aussi voir sur Internet.
Oui.
Le journal économique 24 ore, puis bon, évidemment en journaux à thème, il y a la Gazzetta dello Sport, on ne peut pas ne pas en parler, parce que c'est le grand journal sportif italien.
Bien sûr.
Sinon, dans les autres journaux ou hebdomadaires ou mensuels, il y a l'Espresso, Panorama. Il y a le Focus, alors à ne pas confondre avec le Focus, dont on va peut-être dire deux mots après ce qui est en France. Sinon, il y a Belle Italia, qui est un beau mensuel, Belle Italia, très documenté, avec des belles planches, des belles photos sur l'histoire, un peu l'architecture italienne et les paysages, le patrimoine en général, au sens large.
Alors, il y a
Airone aussi, qui est bien.
Belle Italia est une des revues sur l'Italie la plus recommandable en France. Il faudrait que beaucoup plus de Français s'abonnent à Belle Italia. Mais il faut bien reconnaître que c'est une publication, que c'est un magazine très réactionnaire.
Ah oui, non, mais c'est pas...
Parce qu'il y a des gens comme Vittorio Sgarbi qui écrivent. Et puis, on ne signale pour chaque paysage que les hôtels qui coûtent au moins toujours
très abordable.
Voilà. Donc, de ce point de vue-là, c'est pas très utilisable. Mais par ailleurs, c'est vrai que leurs articles les paysages, sur les villes, les monuments sont remarquables.
Oui, sur les monuments, je trouve que c'est encore peut-être là où ils sont le plus...
Oui. Et il faut recommander l'abonnement à Belle Italia, qui n'est pas très cher, à notre public. De même, tu parlais de Focus, alors qui est une revue en italien publiée à Paris, Focus In.
Alors Focus In, qui est en italien et en français, qui traite des rapports déjà France-Italie, et qui a des articles sur l'actualité française et italienne, avec souvent un parallèle, pas seulement un parallèle, aussi des échanges ou des idées communes, ou pourquoi tel phénomène est traité de telle façon dans l'Italie ou en France. C'est le dernier numéro, par exemple, le numéro 8 d'octobre 2010, parle de l'éducation nationale en France et en Italie. On fait beaucoup référence aussi à l'immigration dans ce magazine. On parle beaucoup, il y a des recettes, il y a de la musique, on fait découvrir des bouquins ou des disques italiens. C'est un journal aussi qui parle beaucoup des événements autour. On avait eu l'honneur, nous, d'avoir
une
ou deux pages, pour le 20e anniversaire notamment. Bon, le numéro de ce mois parle, par exemple, du Festival du cinéma à Villerue, qui est un festival italien très connu. Et puis des différentes manifestations dans les différentes villes de France, voire des découvertes. Non, il est très intéressant.
Il faut le recommander vivement aux personnes qui s'intéressent à l'Italie
tout à fait.
Autour de nous.
Donc on rappelle, ce magazine s'appelle Focus In.
Voilà,
bon, possible.
On écoute.
Vas-y,
Alain.
Non, je disais, il y a aussi une forte présence dans les régions des journaux en Italie. Après, il y a des journaux comme Il Resto del Carlino, qui est d'Emilie Romagne. C'est un journal régional au départ, mais qui se vend à beaucoup d'exemplaires, Il Gazzettino, Il Messaggero à Rome,
Corriere
delle Alpi aussi dans la partie est de l'Italie, Montagne, la Nuova Sardaigne. Mmh. Et il y a des journaux en langue régionale aussi, dans les régions autonomes notamment, bon, les Valdôtains, il y a des journaux en italien et en français, et puis dans d'autres régions, suivant la langue parlée.
Mais
c'est intéressant ça aussi.
C'est intéressant. En même temps, le total des lecteurs de la presse, ça représente 2 millions, 3 millions de personnes, c'est-à-dire beaucoup moins que ceux qui regardent la télévision berlusconienne.
Qui subissent la télévision.
Donc il ne faut pas inviter les gens à ne plus lire, au contraire,
au contraire,
à lire plus la presse.
C'est agréable d'avoir un journal entre nous.
Ah, oui.
On écoute de nouveau Carmen Consoli dans un nouveau titre, Mandaci una cartolina, envoie-nous une carte postale. Pourquoi parmi tous les jours où tu pouvais partir, pourquoi tu as pensé partir un lundi? Les oiseaux chantent, l'été est à nos portes, l'été tant de mer et de granit et au citron. Et pourquoi envoie-nous une carte postale avec une photo de toi, avec le sourire qui est en train de prendre le soleil sur la page. Enfin, je passe plusieurs strophes. Mmh. Parmi tous les jours où tu pouvais partir, pourquoi tu as pensé proprement mourir un lundi, etc. etc. Mmh. Voilà.
I giorni in cui potevi partire, perché hai pensato proprio a lunedì? Gli uccelli cantano l'estate alle porte, tempo di mare, di granite e al limone. Chissà quale fine, sarcasmo d'autore, avresti sfoderato senza giri di parole. Viva l'Italia, il calcio, il testosterone, gli inciuci e le buttane in preda all'ormone. A noi ci piace assai la televisione, proprio l'oggetto di coesposto in salone. Chissà quale amara considerazione avresti concepito in virtù del pudore. Mandaci una cartolina e una ridente foto di te, che prendi il sole sulla spiaggia con la solita camicia bianca ed il giornale aperto sulla pagina sportiva, mentre stai sul bagno asciugabeato tra le braccia di un tramonto. Tra tutti i giorni in cui potevi morire, perché hai pensato proprio a lunedì? Strade caotiche, litigi agli incroci, quanti cafoni su veicoli osceni. Chissà quale fine, sarcasmo d'autore, avresti sfoderato in questa triste occasione. Mandaci una cartolina e una ridente foto di te, che prendi il sole sulla spiaggia con la solita camicia bianca ed il giornale aperto sulla pagina sportiva, mentre stai sul bagno asciuga canticchiando una canzone romantica. Mandaci una cartolina e una ridente foto di te, prendi il sole sulla spiaggia con la solita camicia bianca. Mandaci una cartolina e una ridente foto di te, mentre stai sul bagno asciuga e cogli con stupore un nuovo giorno.
Voilà, Carmen Consoli. Alors, parlons un peu de notre actualité locale. Il faut dire à nos auditeurs que l'INIS est en train de publier, a le projet de continuer d'ailleurs longtemps, de publier des petits livrets de 64 pages sur les problèmes des régions, sur les régions, sur l'histoire. Alors il y en a deux qui sont sortis sur une histoire du Piémont d'une part, un peu dans la perspective du 150e anniversaire, parce que le Piémont a été à l'origine. Mais on s'aperçoit que les personnes, les Français autour de nous, savent peu de choses de tout ça. Et puis, on vient de publier aussi une brève histoire de Milan, de la Mediolanum la plus ancienne jusqu'à nos jours. Les deux sont en vente aussi à la librairie Majolire au prix de 10 euros.
Ou par correspondance en s'adressant à Inis.
Oui, cette rue Édouard Herriot, 38-300 Bourgoin-Jallieu. Et un troisième livret est en préparation sur l'histoire de l'unité italienne, qui est plus que l'histoire de 1861. On repart de la diversité du peuplement italien dans l'Antiquité, et puis quelques rappels de ce qui crée la situation de 1861, où se réalise pour la première fois l'unité nationale.
D'ailleurs, les deux grands journaux dont on parlait, enfin deux des grands journaux dont on parlait tout à l'heure, sont nés dans la foulée de
Absolument.
Cette unité.
Absolument. L'un tout de suite après, la Stampa, et l'un un peu de temps après, le Corriere della Sera, parce que l'unité correspond aussi. C'est-à-dire que l'unité est quelque chose de très partiel, c'est un phénomène purement politique. Metternich disait l'Italie n'est qu'une expression géographique. Cavour lui a répliqué maintenant l'Italie est faite. Et effectivement, 1861, c'est la création d'un État national, internationalement reconnu, l'État italien. Mais Cavour ajoutait aussi maintenant il faut faire les Italiens. Et ça, on s'aperçoit à l'actualité d'aujourd'hui que ce n'est pas encore complètement réalisé ou que c'est mal réalisé.
Comme il faut faire les Européens.
Voilà. Et effectivement, l'introduction du livret sur l'unité italienne montre que dès Garibaldi, dès Mazzini, c'est-à-dire dès les années 60-70 du 19e siècle, les Italiens pensaient en termes d'unité européenne et se disaient que l'unité italienne allait entraîner d'autres peuples à réaliser l'unité et à s'unir à l'Italie. Et ça, c'est intéressant parce que c'est notre problème actuel, celui de l'unité européenne. Donc voilà, il y a trois livrets deux qui sont sortis et un qui va sortir d'ici une quinzaine de jours. Et qui seront en vente pour les adhérents de l'INIS, mais aussi pour tous ceux qui s'intéressent à l'Italie.
Alors il y a aussi deux, toujours publiés par l'INIS, mais en collaboration avec Couleur FM, et on, hormis l'émission dans laquelle on est en train d'intervenir, il y a l'autre émission sur la chanson italienne qui a été commencée depuis une petite année, on va dire, qui s'appelle Sono solo canzonette. Et il y a deux de ces émissions consacrées au chant d'émigration qui peuvent être achetées, on va dire, auprès d'INIS et qui ont été éditées par Couleur FM. Deux émissions consacrées donc au chant des migrants italiens qui sont partis dans différents pays du monde.
Voilà. Et puis qui sait si on n'éditera pas
d'autres émissions,
les chansons italiennes, les chansons napolitaines dont on parle en ce moment. Alors sur un autre plan, plusieurs expositions actuelles. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'expositions en Italie autour de la préparation du 150e anniversaire. Rome et Turin seront les deux villes essentielles. Mais alors, il y a l'exposition de Grenoble dont on a peu parlé, du 10 octobre au 2 janvier 2011. Sindrome Italiana, la jeune création artistique italienne. C'est une exposition intéressante de photos, de peintures, de sculptures, qui se tient au magasin 155 cours Beria à Grenoble. Le téléphone est le 04 76 21 95 84. Je répète, 04 76 21 95 84. Et on peut consulter le site magasin-knack.org. Magasin-knack.org. Et puis, on a deux expositions à Paris qui parlent de l'Italie, parmi beaucoup en France. Il y a le choix des Médicis. Il y a l'exposition « Trésors des Médicis » sur les collections de la famille. Il y a 150 œuvres qui sont exposées de maintenant jusqu'au 31 janvier 2011 au musée Mayol, fondation Dina Vierny, rue de 59-61, rue de Grenelle. Et une autre exposition est intéressante aussi, c'est l'exposition « La France 1500, entre Moyen-Âge et Renaissance » du 6 octobre au 10 janvier 2011, toujours à Paris, aux Galeries Nationales du Grand Palais, entre l'entrée Clémenceau, 3 avenue du Général Eisenhower, dans le 8e arrondissement. Et là, on compare l'apport flamand et l'apport italien à la culture française de cette époque. Et c'est extrêmement intéressant. Alors nous recommandons vivement à nos auditeurs, s'ils ont l'occasion de se rendre à Paris. Et puis, il faudrait rappeler les deux grands défilés de mode de la Bottega Veneta et de Antonio Marras, le représentant de Kenzo.
Et puis on va revenir en Orisère avec, dans le cadre donc de la semaine de la solidarité internationale en Orisère, qui se déroule du 3 au 25 novembre, depuis le 3 novembre jusqu'au 25 novembre, on a la participation d'Inis par le biais de sa chorale Ephimera, qui chantera à 16h30 le samedi 6 novembre. Cette manifestation de la semaine de la solidarité internationale en Orisère, voilà, à l'espace Grenette.
Voilà, alors tu nous donnes une recette
fond. Et puis simplement, puisqu'on parlait de l'opposition à M. Berlusconi, sort aussi le film de Sabina Guzzanti, oui. Le film Dracula, alors évidemment c'est un jeu de mots, mais qui parle de l'après-tremblement de terre à l'Aquila, l'Italie qui tremble. Sabrina Guzzanti, qui sait de quoi elle parle, parce que son papa était berlusconien, à qui il a tourné le dos, même si elle ne s'entend plus trop avec son père. Enfin, c'est un film à voir, là, encore, un documentaire, qui est paru en printemps en Italie et qui a eu plusieurs centaines de milliers de spectateurs, ce qui est important pour un documentaire. Voilà, alors on va donner notre recette habituelle sur un fond de Gian Nannini, on peut dire la grande ancienne de Carmen Consoli, qui chante toujours, qu'on va écouter en fond sonore sur sa chanson Profumo. Et puisqu'on est à la période des champignons, on va donc voir une recette des tagliatelles aux champignons. Alors, vous vous munissez de 700 g pour 6 personnes, de 700 g de tagliatelles fraîches, 60 g de beurre, 60 g de parmesan. Vous aurez une sauce à préparer avec 1 kg de champignons des bois. Alors, vous pouvez prendre des cèpes, des girolles, des trompettes de la mort, enfin, tous les champignons qu'on trouve en ce moment. 3 gousses d'ail, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, 3 noix de beurre, une botte de persil et 60 g de beurre mélangé au sel et au poivre. Vous nettoyez les champignons en les grattant, bien sûr, avec un couteau pour enlever la terre. Vous les plongez dans l'eau, deux fois de préférence, et puis, lorsque vous les avez retirés, vous les essuyez, vous les coupez les plus gros, vous les coupez en deux ou en trois s'ils sont vraiment très gros. Dans une poêle anti-adhésive de préférence, vous faites chauffer une cuillère à soupe d'huile et une noix de beurre avec une gousse d'ail entière. Vous ajoutez les cèpes, vous laissez cuire à feu vif sans remuer pour qu'ils rendent leur eau. Vous salez, vous poivrez, vous ajoutez un peu de persil haché et vous laissez cuire 3 minutes à feu doux. Ensuite, vous mettez les cèpes, si vous avez pris des cèpes, dans un saladier. Vous recommencez avec les girolles et avec les trompettes de la mort. Vous mélangez les champignons avec le reste du persil et vous gardez tout cela au chaud. Parallèlement, donc, vous entamez la cuisson des tagliatelles dans un grand volume d'eau bouillante et salée. Vous égouttez les tagliatelles, vous les remettez dans la casserole, vous ajoutez le beurre, la moitié du parmesan, les champignons. Vous mélangez et vous servez dans des assiettes chaudes avec le reste du parmesan non utilisé. Voilà, alors si cette recette peut être faite soit avec des champignons séchés, mais comme on est à la période des champignons, il vaut mieux prendre des champignons frais et c'est bien plus goûteux.
Voilà.
Voilà, alors voilà pour l'émission d'aujourd'hui. Bonsoir à tout le monde.
Bonsoir
et
à tous.
Au mois prochain.
À l'écoute de l'Italie,
une émission de l'INIS le quatrième jeudi de chaque mois de 18h à 19h.
Retransmission le dimanche suivant de 10h à 11h et le lundi suivant de 21h à 22h.
Actualité et tradition,
chansons,
gastronomie.